Voilà, donc on va donner la parole à Raphaël Romney autour de littérature ouvrière et paysanne.
À toi, Joël. Exactement. Bonjour à tous et à toutes. Donc tout d'abord, merci à Nicolas d'avoir accepté d'inverser nos interventions. Le titre de mon intervention, c'est « Littérature ouvrière et paysanne » ou « La réappropriation de la parole ouvrière d'hier à aujourd'hui ». Alors, en préalable à la présentation de cette thématique, il convient de préciser un point essentiel. En quoi une écriture jaillie d'en bas, issue de la plume d'un ouvrier, d'une paysanne, d'un employé, de caissière, de salarié ubérisé, peut-elle s'inscrire dans le cadre d'une approche anarchiste du fait littéraire ? Et le socle commun de cette possible proximité réside dans une identité partagée, à savoir, d'un côté, il y a un combat émancipateur préconisé globalement, hein, on ne va pas entrer dans les détails du mouvement, mais qui est préconisé globalement par le mouvement anarchiste, qui repose sur un postulat, la conviction qu'aucune rupture révolutionnaire avec le capitalisme n'est concevable sans l'autogestion du processus révolutionnaire, sous peine que tout processus émancipateur n'accouche d'un nouveau totalitarisme ou d'un retour à un ordre établi précédent, encore souvent plus répressif. Hein, l'orientation libertaire se réfère ainsi aux éléments de la Commune de Paris, à l'auto-organisation du mouvement paysan macnoviste, aux collectivités espagnoles de 1936, ou à de nombreuses luttes autogérées de mai 68 et des années qui suivent pour la France. Voilà, la littérature venue d'en bas, ce qu'on appelle la littérature prolétarienne, on développera un peu plus tard, la littérature venue d'en bas répond quant à elle à une exigence, la revendication assumée d'ouvriers, de paysans, d'employés, d'exclus, de chômeurs, de s'approprier l'écriture sans recourir à aucune médiation, démarche qui se fonde sur le fait que l'expression authentique du vécu ne saurait être déléguée à un tiers. Ceux et celles d'en bas ne se reconnaissent pas nécessairement dans les récits qu'en donnent les auteurs issus de classes privilégiées, même parfois avec la meilleure volonté du monde. Donc la réappropriation de la parole ouvrière résonne en écho à l'exigence libertaire, agir, ne pas déléguer, agir au lieu d'élire des représentants, etc. Alors il faut souligner une petite parenthèse, hein, que l'ensemble des écrits prolétariens ne s'inscrit pas nécessairement dans cette dynamique. Dans certaines circonstances historiques, ils ont même pu s'en écarter profondément. Ainsi, lors de la Seconde Guerre mondiale, quelques écrivains ont pu devenir des compagnons de route de la collaboration, à la fois en France, mais aussi pas mal en Belgique. Célébrer en tant qu'auteur la terre ou le travail en dehors de toute référence de classe peut naturellement conduire à emprunter des trajectoires plus qu'ambiguës, à célébrer par exemple les valeurs réactionnaires du pétiniste ou à participer en Belgique pour un certain nombre d'auteurs prolétariens avant la guerre à participer à des soit une radio en Wallonie soit à des écrits dans la presse de collaboration et certains comme Pierre Huberneau ont d'ailleurs été fusillés. Voilà, alors ça c'était une petite parenthèse globale. Je vais être obligé d'élaguer aussi parce que sinon je vais dépasser le temps imparti. Alors je vais rapidement souligner que le besoin d'une expression ouvrière ou paysanne précède l'apparition du courant dit littérature prolétarienne qui voit le jour dans le premier quart du XXe siècle, de manière en tout cas théorisée, au cours des années 30. La trajectoire de cette volonté d'appropriation de l'écriture épouse celle du prolétariat, elle découle de ses échecs, mais aussi de ses succès, et elle s'enrichit de ses avancées. Elle est parallèle à l'essor du capitalisme. Hein. Mais, bien avant, c'est ce besoin d'une création populaire autonome est ancienne. Elle s'est illustrée dès le Moyen-Âge dans la poésie, dans la chanson, dans la littérature de comportage ou celle du compagnonnage. Ce n'est donc nullement un hasard si la manifestation littéraire des premiers écrivains ouvriers apparaît au 19e, et plus précisément avant et après les journées révolutionnaires de juin 1848, qui est une révolution essentielle dans le processus de naissance de la classe ouvrière, en tout cas de sa perception, de son appropriation de l'existence d'une notion, qui est l'existence d'une classe qui existe en soi et en tant que quantité collective. Ainsi, dans le numéro de La Vie ouvrière, la vie ouvrière d'avant 1914, c'est une revue syndicaliste révolutionnaire animée par Pierre Monat, Rosmer, etc., qui est autonome par rapport à la CGT. Et dans un numéro du 5 juillet 1910, il y a Armel qui exprime la dimension de cette révolution de 1848. Mais leur défaite leur fut profitable à ceux qui vinrent après eux. Elle apprit aux travailleurs qu'ils n'ont à compter que sur eux-mêmes. Elle sépara pour la première fois deux classes ennemies, jusqu'à la mêlée par le confusionnisme démocratique. Elle fut la première démonstration de cette duperie qu'est la paix sociale pour la classe ouvrière. Alors, un autre élément qui va jouer dans le développement de cette écriture, c'est entre 1828 et 1846, le nombre de personnes qui vont savoir lire et augmente de 52%. C'est cette double réalité, l'émergence d'une classe et la possibilité de lire et d'écrire, qui va permettre une expression littéraire chez l'ouvrier, chez l'artisan, le paysan, et notamment, ça sera la poésie qui sera à l'époque le vecteur principal. Mon objectif, c'est pas de retracer ici dans le détail cet itinéraire collectif. Je renvoie pour cela aux auteurs libertaires ou proches, de référence sur cette question. Bien sûr, Henri Poulaille, dont je reparlerai tout à l'heure, mais Michel Ragon, Thierry Maricourt et Philippe Jeunesse. Alors, pour la partie qui est dans l'ouvrage des actes, j'ai donné les références un peu plus précises. Un point mérite l'attention. De même que les anarchistes devront faire face à toutes les violences étatiques, patronales, staliniennes, les précurseurs de la littérature ouvrière seront constamment, d'hier à aujourd'hui, victimes d'ostracisme. Ainsi, en 1841, Olinde Rodriguez écrit « Poésie sociale des ouvriers », qui constitue en fait une anthologie de textes s'inscrivant dans cette thématique. Cette initiative va générer une vive critique de la presse réactionnaire bourgeoise, conspuant cette étrange idée, la prétention d'ouvrier à délaisser l'outil pour la plume, ou du moins à se saisir de cet instrument pour produire autre chose qu'une marchandise chargée de plus-value. L'écriture ouvrière est là encore sujette à caution. Il y aura, bon, il faut le dire, quand même quelques voix, je parle des années 1848 et pas la position de ces écrivains-là autour de la Commune de Paris, mais il va quand même y avoir des écrivains célèbres qui vont saluer ces initiatives et ce travail de Rodriguez, c'est Victor Hugo, Lamartine et Georges Sand. Voilà. Donc, je vais un peu passer... Bon, il y aura un ouvrage qui paraît en 1925 de Gaston Depresne, qui est une anthologie des écrivains ouvriers, qui recense de nombreux auteurs, et parmi lesquels on trouve des artisans, des menuisiers, des cordonniers, etc., et qui montre cette appropriation avant que ne soit, on va dire, théorisée ou mis en forme cette notion de littérature prolétarienne dans les années 1920-1930. Je vais essayer de faire rapide. Cette théorisation, elle se fait par un combat contre deux écoles littéraires qui s'expriment à ce moment-là. La première, c'est donc c'est l'objet d'un combat pour exister. C'est le refus du populisme. Alors, il faut bien resituer aussi. C'est une grande période de débat, les années d'après-guerre. On sort de la première boucherie impérialiste. Il y a un besoin de renaître, de réaffirmer autre chose. J'aborderai pas ici la question du surréalisme, puisque je crois qu'il y a une intervention dans la journée. Mais c'est une époque d'effervescence entre différents courants politiques. Il y a eu la révolution de 1917, et c'est une période très riche au niveau des orientations politiques, mais aussi sur la question de la littérature. Je parle de débats qui se situent en France, mais aussi à l'ensemble de la planète. Il y a la Révolution de 17, il y a le mouvement des conseils des Bavières en Allemagne, les occupations, la lutte en Italie, etc. etc. Rappel, pour l'Allemagne, ils vont être liquidés déjà par la social-démocratie. Et en France, il y a des recompositions politiques avec la création du PC, l'apparition de la CGTU, puis de la CGT syndicaliste révolutionnaire. Voilà. Donc, c'est pour situer le contexte rapidement. Et sur le plan littéraire, il y a une nouvelle école qui est le populisme, qui s'affirme comme, je cite, « une réaction contre une littérature de classe, celle de la grande bourgeoisie ». Et elle met en valeur des personnages appartenant aux classes privilégiées, mais aussi aux classes populaires. Il y a deux personnages principaux de ce courant, c'est Léon Lemonnier et André Thérive. qui vont faire des contributions dans des revues jusqu'à faire un manifeste qui va s'appeler Populisme, qui est une reprise partielle et enrichie du manifeste du roman populiste qui est publié à la fin des années 20. En guise de synthèse, nous pouvons dire que l'objectif de ces écrivains est de peindre le peuple. Ça a un double aspect. D'une part, dépeindre les ouvriers tels qu'ils apparaissent à l'observateur contemporain, et d'autre part, chercher dans l'âme populaire ce qu'elle peut contenir de plus secret, comme le définit l'ouvrage de Lemonnier. Ceci avec un style simple et accessible qui refuse l'ésotérisme, postulat qui s'inscrit en faux de la littérature classique comme du surréalisme. Quant à la référence au peuple, nous sommes en présence d'une acception qui ne comporte aucune allusion marxiste. Il s'agit des petites gens, on va s'occuper des petites gens, dont l'histoire sera abordée d'un point de vue individuel, sans aucune arrière-pensée et arrière-plan politique. Nous ne voulons pas, disent-ils, nous embarrasser de ces doctrines sociales qui tendent à déformer les œuvres littéraires. Donc nous sommes en présence de ce courant, en fait, où l'écrivain populiste conçoit le peuple comme une thématique parmi d'autres, un peu à la manière d'un ornithologue qui se préoccupe d'une variété particulière d'oiseaux. Cette école individualise une approche du peuple et en fait se réfère à une conception rétrograde et conservatrice de la littérature, puisque le peuple devient, le peuple prolétariat, la classe ouvrière, est un objet d'étude où aucun élément de son auto-organisation, de sa production littéraire n'est mise en place. Ça, c'est le premier point, parce que les batailles qui vont s'affronter, c'est Henri Poulaille qui va les mener, puisqu'il publie en 1931 ce qui va être le manifeste de la littérature prolétarienne, le Nouvel Âge littéraire, et c'est un combat contre cette orientation. Le deuxième combat, c'est l'apparition, donc, dans la foulée de la Révolution russe, de la littérature de parti. C'est-à-dire que il va y avoir, je vais faire très rapide et élaguer un peu ce que j'ai mis sur le papier, c'est qu'il va y avoir Henri Barbusse qui va être membre de l'Union internationale des écrivains révolutionnaires et qui va mener des débats au départ assez proches du groupe de Poulaille. Il est proche du Parti communiste au début dans les années 20, 21, etc. Mais il est assez autonome encore, il a encore, on va dire, bon, il est auréolé du succès qu'a connu son livre Le Feu, et il a encore une certaine liberté d'expression par rapport au Parti communiste et par rapport, évidemment, à l'international communiste. Mais il va y avoir, en 1930, un congrès, une conférence, à Kharkov, en URSS, qui va définir... En fait, c'est la normalisation de la littérature prolétarienne, dans la mesure où c'est désormais le parti bolchevique qui entend définir les règles de la création en matière de littérature, règles auxquelles doivent se soumettre les écrivains dont la production doit être conforme aux objectifs assignés par l'organisation politique. C'est-à-dire qu'on va avoir, y compris en URSS, une espèce de planification de la littérature comme on a une planification de la production industrielle et agricole. Et ça, c'est développé par l'Association russe des écrivains prolétariens, qui va mettre ça en... Et ça va se traduire, ils vont mettre en place un système de correspondants ouvriers, en URSS comme en France, ce qu'ils vont appeler des rapcorps, et qui vont être chargés d'alimenter des écrits, mais qui doivent être vus à l'aune de l'orientation politique. Je vais donner un exemple qui est en 1935. En 1935, il y a une femme qui s'appelle Henriette Vallée, qui fait partie d'un groupe marxiste hétérodoxe avec Henri Lefebvre, etc., et qui va publier un livre qui s'appelle « Madame 60 bis », que Poulaille va soutenir. « Madame 60 bis », j'en parle souvent de ce livre parce qu'il est important. C'est quoi ? C'est le numéro qu'a cette femme à l'Hôtel Dieu où elle va accoucher. Et c'est des salles où il y a 70 personnes, 80 personnes. Il y a une promiscuité incroyable. Il y a des ouvrières, il y a des prostituées, il y a des femmes étrangères. C'est un livre très, très dur. Vraiment... que l'Arbre Vengeur avait réédité, je ne sais pas s'il est encore disponible, mais il faudrait s'en préoccuper. Et Poulaille soutient ce livre qui se réfère au vécu des femmes d'origine populaire ouvrière. Jean Fréville, qui tient la plume dans la rubrique littéraire dans l'Humanité, va publier un texte. D'ailleurs, le Jean Frévy en question, c'est lui qui va écrire « Fils du peuple » de Maurice Thorez. Hein, c'est la plume de Thorez après. Et ça, c'est pour la parenthèse. Il va écrire, il va rendre compte de ce livre, il va dire « C'est très bien que les travailleurs, les ouvrières prennent la parole, mais pas pour exprimer ce vécu comme ça. » C'est-à-dire qu'en gros, il faut sublimer la réalité, c'est-à-dire pour qu'elle soit conforme à la vision qu'on donne le parti, c'est-à-dire à l'époque, hein, voir les affiches, etc. C'est le point levé, c'est l'homme qui représente l'avenir radieux du communisme. Et Henriette Vallée n'est pas n'est pas raccord avec cette vision, donc elle est condamnée. Alors, face à ça, donc, le groupe, il y a un groupe qui... Je zappe un petit peu, mais enfin, ça va être quand même féroce. Hein. Il va y avoir même des affrontements, des batailles physiques dans certaines réunions publiques, parce que Barbus est un peu épargné puisqu'il va mourir en URSS, mais ceux qui n'obéissent pas à ce nouveau dogme, ils vont être étiquetés. Alors ça va concerner des anarchistes ou des trotskistes, hein, et on va les appeler une bande d'écrivassiers bourgeois et social-fascistes. Voilà un peu. Mais l'orthodoxie secrète l'hérésie comme le poison d'antidote. Et donc, la constitution du mouvement littéraire prolétarien va répondre à ces injonctions. Et c'est en gros l'autogestion de la parole ouvrière. Il y a deux personnes qui vont... être un peu à l'initiative de ce mouvement. Le premier, c'est Marcel Martinet, qui est un écrivain, un compagnon de route des syndicalistes révolutionnaires et des anarcho-syndicalistes, qui, dès avant la guerre, va aborder la question de l'art prolétarien en 1913, et qui va aussi être directeur jusqu'en 1924, de la rubrique littéraire de l'Humanité, puisqu'en 1924, il va quitter le PC. Et là, il va côtoyer un type qui s'appelle Henri Poulaille, qui lui publie des contes. Henri Poulaille, je la fais très courte, hein, c'est un personnage qu'il faut découvrir, orphelin à 14 ans, qui va se cultiver lui-même. Il sera pas placé, son père charpentier, à Montreuil d'ailleurs, tombe d'un échafaudage, meurt quelques mois après, sa mère 6 mois après. Orphelin, c'est un autodidacte, hein, comme la plupart des auteurs et des autrices prolétariennes. C'est des gens qui vont se former seuls. Bon, je vais passer rapidement sur Poulaille, mais en fait, cette rencontre entre Marcel Martinet et Poulaille va permettre de constituer le socle du mouvement de la littérature prolétarienne. Poulaille, en 1924, pour la petite parenthèse, devient directeur du service de presse des éditions Grasset, qui est quand même une place assez stratégique pour faire connaître des auteurs. Et lui, va beaucoup se préoccuper des auteurs qui viennent d'en bas. J'élague un peu, il sera aussi, en 26, il est directeur de la page littéraire du Peuple, hein, le journal de la CGT. Et il va y avoir donc des affrontements très féroces avec Monde, qui est le journal qu'a publié, financé par l'URSS, publie Barbus, dans lequel il y a d'autres directeurs, enfin il y a Baru qui est un Belge, etc. Il y aura des débats intéressants, il y aura même un questionnaire en 28-29 sur qu'est-ce que c'est que la littérature prolétarienne. Il y a plein d'auteurs qui vont répondre. Et petit à petit, va se constituer un groupe qui va essayer de dire qu'est-ce que c'est que cette littérature prolétarienne. Je ne sais pas combien de temps il me reste.
17.
Combien ? 17 minutes.
17.
Non, j'ai bien compris. Donc, en fait, pour Poulaille, au départ, il a une définition assez carrée. L'écrivain prolétarien doit appartenir à la classe ouvrière ou à la classe paysanne ou en venir, et quelque part, lui rester fidèle. C'est ce qui distingue d'ailleurs quelqu'un qui a une position de classe d'un parvenu. Le parvenu, c'est exactement l'inverse, c'est quelqu'un qui oublie ses origines, et puis parfois même les renie ouvertement ou de manière indécente. Voilà, ça c'est... Mais dans les faits, ça va être un peu plus complexe que ça, parce qu'il va y avoir ce qu'on appelait des instituteurs ou des institutrices qui vont travailler avec Poulaille dans le groupe des écrivains prolétariens. Je pense à Ludovic Massé, par exemple. Et puis il va y avoir des gens dans... Alors Poulaille va théoriser en 1931 le nouvel âge littéraire en disant ce qu'on crée, ce n'est pas une école. Ce qu'on veut simplement, c'est il existe à côté de la littérature classique et pas en opposition. Il dit même à un moment, ça peut être une transition vers. C'est pas une vision tout à fait figée, c'est quelque chose qu'il voit en évolution. Il faut qu'il y ait un espace pour ces gens-là. Alors, comment il va faire ce travail? Il va le faire, c'est un travail qui d'ailleurs mérite d'être approfondi aujourd'hui. Il va faire des revues. Et dans les revues, il va publier, il va avoir 4 revues, on va dire, hein. Nouvel Âge, la première qui aura 12 numéros, ils ont tous 12 numéros sauf la dernière. Nouvel Âge, Prolétariat à contre-courant, et après la guerre de 40, maintenant. Et là, il va publier des auteurs divers, mais qui viennent tous de la classe ouvrière, de la paysannerie. Hein. Et en plus, un point qui a été peu évoqué, même par Michel Dragon, même par Thierry Maricourt, qui ont beaucoup parlé de la littérature prolétarienne francophone, les revues de Poulaille donnent la parole à des auteurs étrangers. Hein. Je cite le mineur Joe Corry, qui est écossais, Andreas Laszlo, qui est austro-hongrois, Upton Sinclair, etc., qui est américain, etc. Donc, il y a cette volonté de... Et puis, il y a eu après, Thierry Maricourt, par exemple, a travaillé aussi sur la littérature prolétarienne en Suède. Hein. Il a beaucoup travaillé sur les pays nordiques, mais c'est quelque chose qui a une réalité très importante, peut-être plus qu'en France, d'ailleurs, parce qu'il y avait des relais dans les villes et les villages par des bibliothèques assez actives sur ces points-là. Et un auteur... j'ai oublié son nom... L'auteur qui s'est suicidé à 31 ans, Sigda German, voilà, qui a écrit dans la presse anarcho-syndicaliste et qui fait bien le lien entre ses écrits. Voilà. Donc, rapido, et depuis moi c'est beaucoup. Important quand même, un petit zoom. Il y a eu conclusion. Oh putain. Bon, je vais conclure sur 3 points. Dire que. Henri Poulaille, il n'a pas été le premier quelque part, puisque en Belgique, dans les années 28-29, autour de Abaru, il y a déjà eu un premier manifeste avec 2 revues, etc. Puis après, ils sont rejoints, évidemment. Il y a eu un petit groupe qui s'appelait le groupe des écrivains prolétariens qui a sorti que 4 numéros. Il y a des cheminots, il y a des trimards, il y a beaucoup de gens. Voilà, donc... alors je passe une page, je passe deux pages, il y avait un point, une bataille de classe, c'est pas un mythe ouvriériste non plus. Et les questions qu'on peut se poser aujourd'hui, c'est est-ce qu'il y a encore une actualité de la littérature prolétarienne? Alors, nous on pense que, enfin, personnellement et aussi les personnes qui travaillent avec l'association qu'on a fondée, qui est le Cercle culturel de littérature ouvrière, paysanne et sociale, on pense que oui, même si l'image du prolétariat, qui était en gros l'ouvrier en bleu de chauffe, avec la casquette vissée sur la tête, et une classe ouvrière très masculinisée d'ailleurs, aujourd'hui a beaucoup changé. Mais il ne faut pas avoir non plus une vision ethnocentriste, regarder ce qui se passe au bout de la rue, mais au niveau international, il y a des mutations, il y a des choses qui se déplacent dans la production, mais il y a toujours des gens d'en bas qui ne se reconnaissent pas nécessairement dans ce que pensent d'eux les gens d'en haut. Donc, voilà. Donc, encore 20 secondes. Ben voilà. Non, je dirais 2 mots sur deux auteurs qui symbolisent bien aussi ce rapport entre l'écrivain prolétarien et le mouvement anarchiste. C'est Georges Navelle, hein, dont un certain nombre de livres viennent de paraître aujourd'hui, reparaître, hein, aux éditions d'Échappée notamment, ou aux éditions Plainchamp. Petit coup de chapeau pour les éditions Plainchamp et Edmond Thomas, qui depuis 1971 font connaître la littérature venue d'en bas avec un catalogue qu'il faut découvrir. Et donc Navelle, qui était à la fois libertaire, parfois un peu coco de base, mais quand même, il part en Espagne, il fait tous les boulots, et il se réfère quand même au mouvement libertaire, un personnage qu'il faut vraiment découvrir. Et le deuxième, c'est un peu de pub, c'est Panayi Strati. Panayi Strati, qui fait le dossier de notre dernière revue Fragment. Je la fais courte, mais Strati, c'est quoi? Il y a aussi beaucoup dans ces gens, beaucoup de gens qui ont perdu le père, la mère, qui ont été orphelins très jeunes, des autodidactes. Lui, son père est né en Roumanie, hein, à Braia, à 10 ans il est orphelin de père, puisque son père est un contrebandier grec, il va être tué, etc. Et il va être livré à lui-même. Il va devenir vagabond. Il va voyager pas mal pendant 20 ans. Il va en Syrie, en Égypte, etc. Il va aller en France, à Nice. Bon, je passe les détails. Il se tranche la gorge. Il est sauvé. Romain Rolland lui dit « Tu as une œuvre à écrire ?» parce qu'il y avait des contacts, je la fais courte. Et il va se mettre à écrire. Il va être reconnu, traduit, dans les années 21, 22, 23. Il va toucher de l'argent. Puis en 1927, on l'invite. Je finis par ça. En 1927, on l'invite pour les 10 ans de la Révolution d'octobre. Et avec Kazansky, un auteur grec, et leurs compagnons respectifs, ils vont, qui sont des autrices aussi, ils vont rester 16 mois en URSS, sans avoir aux fesses un traducteur garde du corps qui suit la ligne. Istrati parle pas mal, il arrive à comprendre, il revient en France, et il va publier, contre l'avis de tout le monde, de Romain Rolland, etc., Vers l'autre flamme, en 1928, donc 6 ans avant retour du RSS d'André Gide et d'autres, et il va dire ses critiques et ses doutes sur l'URSS, et il va être ostracisé. Voilà. Et lui, son parcours, c'est un parcours... Il va se retrouver pauvre à nouveau, parce que son argent, comme il le dit, moi je suis un oriental et je le partage, je ne vais pas le bouffer en famille, il l'écrit comme ça, il va mourir de tuberculose, mais sa vie... d'ailleurs, il n'a même pas l'impression de faire une œuvre. Il dit il faut découvrir ces ouvrages qui sont des formes de contes qui représentent les Aïdouks. Les Aïdouks, c'est qui? Ce sont des hors-la-loi qui vivent dans la forêt, qui combattent, comme Istrati dans sa vie d'ailleurs, l'injustice, la pauvreté, la souffrance, et dans lesquels, et c'est un peu précurseur à l'époque, la femme a un rôle un peu important pour la période. Voilà, j'en ai terminé sur Istrati, mais sa vie, c'est une vie d'un libertaire qui refuse toutes les compromissions et qui est authentique. Voilà.
Merci. Donc, il y a la revue qui est disponible, sachant qu'Istrati a décrit l'URSS des années 20 comme le pays du mensonge déconcertant, où effectivement il y avait des fausses usines, des faux lieux où soi-disant on montrait le communisme triomphant, quand en fait c'était simplement du théâtre pour que les visiteurs comprennent que le mouvement socialiste était en plein essor. Voilà.
Siliga.
Hein ?
Ben, déconcertant, c'est Siliga, je crois.
Ah, t'as raison, c'est Anton Siliga. Oui. Autant pour moi. Autant pour moi. Voilà, mais c'est quand même un livre tout à fait intéressant, et les textes d'Istrati sont tout à fait lisibles et tout à fait agréables à lire. Voilà. Merci à toi. Tu passes une petite musique ou pas? Hein, sachant que, laisse-moi le micro quand même, on assure ce midi une petite restauration, alors c'est des sandwichs et un peu de fruits, des choses comme ça. On a prévu de la restauration végane, de la restauration végétarienne et de l'alimentation omnivore, donc il y en a pour tout le monde. On peut boire un coup de rouge, un communard ou une bière, vous verrez ça tout à l'heure. Voilà, donc il y a Nicolas qui va s'installer.
On a le temps de quelques questions, je pense, non?
Ah oui, t'as raison, les questions. Excuse-moi, mais je suis un peu stressé, je suis comme Christiane. Ouais. Des questions.
Les questions, il arrive qu'on a des réponses, mais pas toujours.
Pas toujours, mais c'est pas grave. Quand on a la question, on commence à travailler sur la réponse.
Moi, je fais un peu la revue de presse, hein, puisqu'on a une table de presse, là. Je vous recommande, évidemment, le numéro itinéraire sur Henri Poulaille. Et puis, le livre de Raphaël Romney, Les couleurs troubles de l'enfance. Voilà. Il y a d'autres livres, bien évidemment, sur la littérature prolétarienne.
Oui, donc, on démarre, on continue directement? Ok, c'est à toi, Nicolas, où es-tu? Et les questions, peut-être? Non, pas de questions? Une petite question, ici, devant.
Alors, une petite question, c'est avant que s'organise, on va dire, un peu la littérature prolétarienne, est-ce que quelqu'un comme Martin Nadaud pourrait être considéré comme un auteur prolétarien?
Moi, il me semble que son parcours rentre complètement dans ce qu'on a défini, puisque ces thèmes, parce que la littérature prolétarienne, c'est pas simplement... pour ça, je disais, il y a la définition de Poulaille qui est assez étroite et un peu figée au départ, mais après, c'est quel est le contenu de tes ouvrages? Est-ce que ça rend compte de la réalité de la classe ouvrière? Même si ma mémoire est bonne, je crois qu'il a fini député. Tout le monde peut mal tourner. Mais ses écrits témoignent de la réalité ouvrière. Enfin, c'est maçon de la croix.
Ouais, donc pour ceux que ça intéresse, Martin Nadeau, il y a un article dans la revue L'Histoire de ce mois de mai sur Nadeau, hein, effectivement, qui est d'origine prolétarienne et ouvrière, et qui effectivement fera un contresens en se faisant élire, mais c'est une autre histoire.
Bonjour, moi j'ai une question concernant la littérature contemporaine. Je voudrais savoir ton avis sur les gens qui écrivent aujourd'hui, en particulier un certain nombre de gens qui écrivent en auto-édition, des gens de tous les jours en fait qui produisent de l'écrit et aussi de l'auto-fiction et tout un courant d'écriture. Et je voudrais savoir si tu les reconnais ou tu les inscris, disons, dans la littérature prolétarienne ou pas. Voilà, j'aimerais bien avoir ton avis sur cette question.
Enfin, j'ai aucune qualité pour reconnaître qui que ce soit, mais il existe aujourd'hui des auteurs. Il y a différentes formes de témoignages, il y a même des formes de témoignages sur la réalité sociale d'en bas, avec des entretiens avec un journaliste qui peut aider à une personne à accoucher d'un témoignage de son histoire. Donc ça peut se croiser. Ce que nous, on pense, c'est que la littérature prolétarienne, elle ne se conjugue pas au passé, et qu'elle existe encore. C'est pour ça que on a publié trois ou quatrième ouvrage. Le premier, c'est François Lebert, qui est le titre, c'est Ligne de front. C'est un ouvrier, toute sa vie, il va être travailler pour l'automobile, il va faire à Vendôme, il va faire des sièges. Puis vers 42 ans, il est malade et il va se mettre à lire et à écrire et à prendre la main. D'ailleurs, ça a été évoqué, la main, dans l'intervention précédente, mais il va prendre la main comme symbole de ses dessins. Et on l'a publié, c'est un auteur d'aujourd'hui complètement en osmose avec ce qu'on fait. On a travaillé, on a sorti un bouquin sur les PTT, puisqu'on est un certain nombre à venir de ce secteur-là. Mais sur un siècle, hein, on a essayé on a repris des textes que Poulaille avait publiés, dont j'ai parlé d'Henriette Vallée tout à l'heure, mais Lucien Brunet, etc. Les auteurs d'aujourd'hui, il y a Philippe Jeunesse dans la revue, qui a commencé depuis le numéro 1. Philippe Jeunesse, il a travaillé pas mal avec Plainchamp. Alors, il fait un recensement de tous les auteurs, autrices, depuis 1970 à aujourd'hui. Hein. Je ne sais plus, on en est à combien de suites. Hein. Je pense que ça pourra faire l'objet d'un ouvrage qui pourrait être complémentaire de ce qu'a écrit Ragon, ce qu'a écrit Thierry Maricourt, et il met en avant des auteurs d'aujourd'hui. Mais en général, de mémoire, hein, parce que je n'ai pas tout en tête, pas auto-édité. Je n'ai pas une réelle connaissance de l'auto-édition. Hein. Ce que je sais, c'est que on fait un certain nombre de salons, puisque nous, on est, que ce soit pour la revue ou pour les livres, on est en autogestion complète, c'est-à-dire de A à Z. On ne passe pas par un diffuseur ni un distributeur. Un diffuseur et un distributeur prennent, Edmond Thomas des éditions Plainchamp disait, 69% du prix d'un livre. Nous, on sélectionne nos librairies et on travaille, et on fait un travail de gang-portage, chacun autour de lui, puisqu'on est, on a des abonnés, mais on a aussi une association. On se développe comme ça. Et ce qu'on a croisé au niveau de l'auto-édition, c'est le pire souvent. C'est-à-dire, et même dans certaines éditions, comme l'Armatan, par exemple, il y a des fois un travail de sabotage, c'est-à-dire qu'on prend, et il y a des gens, on leur demande de payer un nombre d'exemplaires au prix public. Hein. L'auteur, il est souvent bafoué. On avait rencontré à Vendôme un gars qui avait écrit sur la paysannerie, il s'appelait Pour une histoire de blé, où il dénonçait des magouilles locales avec des paysans. C'était la boucherie au niveau du texte, c'est-à-dire aucune relecture, aucune... D'ailleurs, il y aurait sans doute... Enfin, il y a déjà eu le Castor Astral, il y a 30 ans, avait fait... 40 ans peut-être. Oui, 40 ans. Un travail sur l'auto-édition et la pensée universelle, par exemple, qui était les escrocs number one. Il ne doit plus exister aujourd'hui. Mais voilà, après, j'ai pas de je ne peux pas répondre complètement à ta question parce que je ne suis pas un spécialiste de l'auto-édition, mais il peut y avoir sans doute des choses très bien. Hein. Mais souvent, je pense à une dame je ne me souviens plus de la maison d'édition, qui fait, qui est, c'est pour Gérard Lemaire, qui fait éditer, il est mort en 2016, il a écrit plus de 10 000 poèmes prolétariens, dont une partie, une petite partie va sortir sur la Palestine bientôt. Ça a été, le contrat, c'est tu m'en achètes 50 au prix public. Donc, à un moment, je veux dire, il y a des éditeurs qui s'en mettent plein les fouilles sans aucune éthique.
Merci, Raphaël. Donc, non, il faut qu'on avance là, Christian, s'il te plaît. Tu la poseras plus tard, ta question.
Oui, bon. Je voulais parler du bouquin de Fred Alpi, 5 ans dans le métro, et donc, que tout le monde connaît, et rappeler aussi un bouquin qui a été écrit par un cordiste qui s'appelle, qui le titre est On a perdu.
Quentin.
Quentin. Voilà, ça aussi, c'est là-dedans.
C'est Éric Louis qui est cordiste. C'est un livre qu'il faut lire. On a consacré dans une revue précédente un dossier à Éric Louis. Il était cordiste dans les silos qui travaillent les betteraves à sucre. Et Quentin est mort dans la mélasse, puisqu'il y a une rupture. C'est un livre extraordinaire. Éric Louis est quelqu'un qui a fait 17 ans cordiste. Et là, je veux dire, c'est pas de la littérature.
Merci.